8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Laurence Garcia.
Bonjour et bienvenue à vous les voisins et les voisines. C'est une discrimination pas toujours prise au sérieux, la grossophobie. Derrière ce mot, des réflexions, de la culpabilisation et de l'humiliation en mode « si t'es gros, c'est ta faute ». En France, l'apparence physique fait pourtant partie des critères non discriminatoires dans le code du travail. Et pourtant, une femme obèse a 8 fois moins de chances d'être embauchée. Oui, mais comment prouver qu'à diplôme égal, lors d'un entretien, la personne en surpoids est disqualifiée peut-être d'un simple coup d'œil jugée non performante. Comment prouver cette discrimination à l'embauche ou à l'accès aux soins, sachant que le délit de grossophobie n'existe pas? On en parle avec vous qui nous écoutez bien sûr et nos invités. Bonjour Daria Marx.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes militante féministe et anti-grossophobie, écrivaine, blogueuse, cofondatrice du collectif Gras Politique et autrice d'un dernier essai, 10 questions sur la grossophobie. C'est aux éditions Libertalia. Vous nous direz en quoi, comme vous l'écrivez, c'est une discrimination à la fois privée, mais aussi systémique. À vos côtés, bonjour Jean-François Madieu.
Bonjour.
Sociologue, directeur de l'Observatoire des discriminations et professeur à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, auteur du livre « La société du paraître, les beaux, les jeunes et les autres » chez Odile Jacob. On est très nombreux à être les autres, hein, en fait. Hein.
C'est ça.
Les fameuses cases. D'ici une quinzaine de minutes, nous serons en ligne avec Claire Bargelès, c'est la correspondante de RFI à Johannesburg. Et vous le verrez là-bas, en Afrique du Sud, la corpulence est aussi un marqueur social. Et puis bien sûr, vous qui nous écoutez, racontez-nous si vous avez été victime ou pas de grossophobie, quelles sont les injonctions à la rondeur ou à la minceur chez vous. On attend vos témoignages au 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins et de voisines.
Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin.
Daria Marx, vous écrivez « La grossophobie est une discrimination à la fois systémique et privée ». Avant de parler des conséquences, forcément, ce mot, ce concept, plutôt récent, comment vous le définissez-vous, la grossophobie, et comment la reconnaître aussi?
Alors, la grossophobie, c'est l'ensemble des discriminations, des attitudes discriminatoires à l'encontre des personnes qui sont grosses, tout simplement. C'est assez récent dans le sens où c'est apparu dans nos dictionnaires le bon vieux Robert ou le Larousse il n'y a pas si longtemps, il y a 3 ou 4 ans. Donc ça, c'est récent, mais en fait, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Il y a des historiens de la grosseur qui existent, par exemple Georges Vigarello,
oui,
et qui rapportent très bien que déjà au Moyen-Âge, on se moquait du gros chevalier qui avait plus de mal que les autres à monter sur son cheval. Donc il y a toujours eu, malgré ce qu'on peut dire, on entend parfois oh, il y a eu des époques où il faisait bon être gros, être grosse, on se rapporte à Rubens, des choses comme ça. C'était pas vraiment vrai, en fait. Les personnes très grosses, même si parfois les rondeurs ont été mieux acceptées, les personnes grosses, ça n'a pas toujours été facile pour elles.
Alors, je vois quand même Jean-François Madieu qui tique un petit peu...
Oui, parce que je suis d'accord pour le Moyen-Âge, où effectivement, d'abord la force physique chez les hommes, et puis l'extrême minceur aussi chez les femmes et les modèles dominants. Mais c'est vrai que quand on regarde les silhouettes préférées, et pas dans l'art, mais dans la vie en général, c'est incontestablement, et vous mentionniez Rubens, mais toute la peinture du XVIIe ou XVIIIe et même XIXe siècle, ce sont des personnes, des femmes qui sont clairement rondes.
Oui, mais en ronde, alors, c'est ça le problème.
Non, mais ronde et en surpoids.
Alors, c'est ce que j'allais.
En surpoids, ouais. Voire même en situation d'obésité. Mais en tous les cas, en surpoids, c'est incontestable. Mmh. Et quand on regarde. Donc, c'est pour ça qu'il y avait des standards différents, plus de tolérance à ce propos. Et les critères, on le sait, ont changé dans les années 70 déjà. La tendance, malheureusement, s'est dégradée avec la recherche d'une extrême minceur. Quand vous regardez aujourd'hui ce que les jeunes Européens, hommes par exemple, ouais, ou même femmes, vont trouver beau, comme silhouette de femme, comme indice de masse corporelle, comme on dit.
Alors, fameux indice de masse corporelle,
bah oui,
peut-être redire ce que c'est.
En fait,
c'est un vieil outil, hein, d'ailleurs.
Oui, bah, c'est un mode de calcul qui tient compte à la fois de votre taille en centimètres et puis de votre poids. Mmh. Et du coup, ainsi, c'est comme ça qu'on calcule si quelqu'un est en situation de sous-poids, de poids normal, de surpoids, ou d'obésité morbide. Donc, c'est un mode de calcul qui vaut ce qu'il vaut,
oui,
effectivement.
C'est un indice assez contesté.
Oui,
sinon,
c'est un peu contestable. Bon, enfin, ça donne une indication, mais la maigreur excessive, par exemple, il se trouve que c'est justement ce qu'on est en train d'atteindre dans les pays européens ces derniers temps. Donc on voit qu'on est loin de la femme de Rubens, vous voyez ce que je veux dire. C'est que c'est une sorte de... Et alors, on y viendra peut-être après, ce qui est plus grave, malheureusement, c'est que dans le même temps, on demande aux mêmes femmes d'avoir des rondeurs.
Oui, c'est ça. Mais c'est le côté contradictoire.
Concrètement, des fesses, des seins, comme on dit, un rapport taille-hanche, ce qui est un élément important, bien sûr, dans les silhouettes, mais un rapport taille-hanche toujours avec une taille plus mince. Donc, si vous voulez, sans chirurgie esthétique, vous ne pouvez pas y arriver. C'est juste ça.
Ouais.
Donc, parce que vous ne pouvez pas à la fois avoir un indice de masse corporelle très, très bas, à la limite de la maigreur excessive, et puis dans le même temps avoir des formes. Donc, c'est que vous êtes allé chez le chirurgien esthétique, c'est tout.
Vous en parlez de Marx, oui.
Pardon. C'est très intéressant parce qu'on retrouve, c'est vrai aujourd'hui, des injonctions complètement paradoxales qui sont à la fois à la très grande maigreur et puis à un corps qui devrait refléter un état d'esprit. On est encore dans des clichés où on pense que quelqu'un, le plus maigre on est, le plus en santé on est. Alors c'est pas forcément vrai. Comme être très très gros n'est pas forcément être en très très mauvaise santé. Enfin, il faut se méfier des clichés dans les deux sens. Et en même temps, on veut quand même des femmes à grosse poitrine, à grosse fesse. On a eu quand même tout le règne des Kardashians ces dernières années. On a toutes ces chirurgies très dangereuses, notamment le BBL qui consiste à réinjecter de la graisse, à faire des fesses artificielles très très grosses sur des femmes qui... c'est une opération esthétique extrêmement risquée. Il y a des morts vraiment très nombreuses chaque année. On est dans un paradoxe très important. Et ce qui est important de noter, c'est que c'est vraiment une discrimination genrée qui va impacter d'abord les femmes et les minorités de genre, même si les hommes subissent eux aussi la grossophobie.
Vous l'écrivez aussi, Daria Marx, dans votre livre. Vous dites, moi j'ai l'impression que quand on me regarde comme une grosse, mais plus comme une femme, comme si vous aviez perdu votre genre féminin en fait.
Moi je suis quelqu'un de très gros, on devait me mettre sur une échelle, je suis dans la catégorie des très gros. Et donc je pense que plus on grossit, plus le genre s'efface. Alors que pourtant on a tendance à dire que les attributs sexuels secondaires, c'est-à-dire les seins, etc., les hanches se développent en même temps parce qu'ils portent le gras. Mais j'ai l'impression que plus on est gros, plus on s'éloigne du genre dans lequel on était reconnu avant. Les hommes très gros, par exemple, sont souvent moqués parce qu'ils manqueraient de virilité, parce qu'ils ont les seins qui poussent, par exemple, de ce genre de choses.
Oui,
et les femmes très grosses se féminisent. Et les femmes très grosses, quant à elles, vont être soit hyper sexualisées dans des modèles un peu étranges de fétichisation, ou alors on s'éloigne du genre. Bon, après, moi, je ne suis pas quelqu'un de très féminin, donc ça ne me gêne pas trop, mais il y a des femmes que ça gêne.
Mais vous le disiez, tout ceci n'est pas nouveau, le diktat de la minceur, le jugement social aussi, en tant que sociologue, forcément, Jean-François Amadieu. L'intellect est du côté de la minceur, la performance est du côté de la minceur, la paresse, le péché de gourmandise du côté des rondeurs.
Oui, c'est ça. Là, vous avez abordé plusieurs points qui se cumulent et qui expliquent d'ailleurs tous les a priori négatifs et les discriminations à l'égard des personnes en surpoids ou obèses. C'est à la fois un mélange de « c'est de leur faute ».
Oui,
c'est
la culpabilisation.
Donc, voilà, c'est leur personnalité est en cause, du coup, parce que vous êtes rendu responsable de ce à quoi vous ressemblez. Vous avez trop mangé, pas fait de sport, etc. etc. Et donc, on oublie, bien sûr, que c'est largement pas de votre faute si vous avez pris du poids. Voilà. Et puis, l'autre point qui est important, vous avez raison, c'est bien entendu ce qu'on sait depuis déjà maintenant des années, on a beaucoup d'études sur ça dans le monde entier, c'est à quel point en quelques fractions de secondes, les gens vont se forger une opinion sur les qualités ou les défauts d'une personne qui est grosse. Voilà. Et donc ça va très très vite, malheureusement. Et c'est, en fait, si on le résume simplement, vous prenez toutes les qualités possibles que vous pouvez prêter à quelqu'un, quasiment sans exception, elles vont être attachées à une personne qui, à un moment donné, dans une société donnée, correspond à une personne belle physiquement. Mmh. Donc, comme le surpoids va être associé au fait de ne pas être aussi belle à un moment donné, aujourd'hui. Alors, j'insiste sur le fait que c'est variable selon les périodes, c'est variable selon les pays, etc. Mais globalement, c'est ça l'effet. Donc, évidemment, quand on dit tous les défauts versus toutes les qualités, on veut parler de quelque chose de dramatique, par exemple, sur le marché du travail, parce qu'être considéré comme moins compétent, moins compétente, c'est un florilège de défauts.
Ouais.
Et au fond, c'est cette vieille idée, mais qui malheureusement est toujours d'actualité, ce qui est beau est bien.
Ce qui est beau est bien.
Voilà, ce qui est beau est bien. Donc si à un moment donné, vous n'êtes pas et vous éloignez de l'idéal de beauté à un moment donné,
Sauf que l'idéal de beauté, il est culturel aussi. Ben dans oui, les pays du Maghreb ou autres, les rondeurs sont plus valorisées.
Exactement, c'est pour ça que ça dépend des pays et des milieux sociaux, des pays beaucoup. Et évidemment, oui, ça c'est très important. Et puis les époques quand même, parce que c'est vrai que l'anathème sur les personnes un peu plus rondes, hommes ou femmes, ça n'a pas toujours été aussi puissant qu'aujourd'hui. Hein, quand même, il faut le dire, on tolérait mieux, même chez les femmes qui correspondaient à l'idéal de beauté il y a quelques années, même dans les années 50-60, ce n'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Donc, c'est variable dans le temps. Ouais. Et une fois de plus, il n'y a pas quelque chose qui... Comment dire ? Dire le beau ou le moins beau à un moment donné pour une silhouette d'homme ou de femme, c'est purement à un moment donné.
C'est évident,
ça n'a rien d'objectif. Hein, ouais. C'est purement. Ouais. Enfin, c'est objectif, c'est partagé par des gens à un moment donné, c'est tout.
Oui, moi, vous avez évoqué cette espèce de péché originel, de gourmandise, etc. Je crois que c'est un mot important, le péché, parce que dans les travaux qui sont faits sur comment naît la grossophobie, c'est quand même très lié aux bons évangélistes qui sont arrivés pour coloniser, notamment en Amérique ou en Afrique, et qui ont trouvé très pratique de dire que les corps noirs étaient très très différents et donc moins bien que les corps blancs pour asseoir leur domination sur les populations qu'ils allaient coloniser. Et c'est de là que part quand même la grande différenciation entre les corps, toutes les idées racistes et grossophobes partent de là. Donc le mot péché, il est à mon sens important. Et pour revenir à cette idée de plus on s'écarte de la norme de la beauté, plus on souffre en fait, et plus on est discriminé. Même quand on essaye de faire revenir de la différence dans cette norme, je pense au mouvement body positive dont on a beaucoup parlé.
Alors, body positive qui vantait beauté sous toutes ses formes, sous toutes ses tailles, etc.
Mouvement body positive qui est à
c'est
la base,
illusoire pour vous ou pas?
Ça part de personnes très grosses qui se disent je vois pas de photos de moi sur internet, donc on va aller sur des trucs comme Tumblr, on va mettre des photos de nous et on va créer ce mouvement. Et ce mouvement, il est immédiatement récupéré par des femmes qui n'ont pas vraiment de problème de poids entre guillemets, ou qui sont dans la norme en fait, mais qui sont tellement oppressées par d'autres choses, parce qu'en fait toutes les femmes souffrent du patriarcat dans leur rapport à l'apparence. Elles sont toutes persuadées d'être trop grosses, elles sont toutes persuadées d'être trop moches, elles sont toutes persuadées d'avoir 3 kilos en trop.
C'est
que
vrai,
tout le monde s'approprie ce mouvement body positive et tout le monde se veut être body positive. Je sais pas si c'est bien, parce que du coup ça a éloigné les personnes qui en avaient le plus besoin.
Body
les personnes qui étaient encore
pas
plus
si positives rapidement.
Vous voyez l'aspect négatif, mais il y a un aspect positif, c'est qu'au fond, si toutes les femmes, quel que soit le motif pour lequel elles sont complexées, sont tyrannisées, etc., comme vous venez de le dire, il y a des tas de raisons, il n'y a pas que la question de la maigreur excessive, c'est bien aussi. Parce que c'est sur toute une série de sujets. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, par exemple, je vais prendre un exemple, la femme qui vieillit. Mmh. Voilà. Pourquoi est-ce que la peau devient ridée ? Vous avez des stigmates, comme on dit, du vieillissement. C'est dur pour beaucoup de femmes. Finalement, le body positive, ça sert aussi à ça. Il y a des prises de parole sur ça. Et je trouve que... Voilà, c'est pas inutile à mon sens. Et ça sert à beaucoup de monde. Voilà, mais
je pense
c'est
que
vrai,
ça,
pas
ça,
juste.
Ça a servi, mais ça a pas servi à celles qui en avaient le plus besoin.
Body positive, restrictive ou pas. Allez, on continue à parler des discriminations grossophobes et surtout comment lutter et les dénoncer et surtout les prouver. On en parle après Richard Bona. Il y avait quoi avant sur RFI?
Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant?
Il y avait quoi avant?
Il y avait quoi avant?
Panagane
gondo. Il y avait quoi avant?
Songona tekempade.
Il y avait quoi avant? On avait Cameroun Airlines.
Yeah, combi.
La régie faire cam.
Come and go.
Sodekao dans l'eau.
Wopalo.
La sonnelle est partie.
Chez nous.
Fonader, on a mis à terre
McDo.
Kamchi avec trois bateaux.
Que quoi?
Aujourd'hui c'est dans l'eau.
Hey.
Sophie Belle, Nina Bellabo.
Subhanallah.
Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant?
Mamaï.
On avait sauté que c'est cadu. Une alors on n'allume plus.
Ça chauffe plus.
Roi d'auteur, c'est le couvre-feu.
Là alors.
Les enseignants sont matés.
Massa.
Qui a brûlé la sonara?
Hey.
Soudain Kamo en Konjok. Soudain Blé en Gambéré. Et la CNPS fait la muette.
Woko, woko, woko. Le ninja va parler.
Kambala Kumoyen.
42 ans au pouvoir. Plus jamais ça. 42 ans de misère. Nous voulons plus. Les fontaines publiques étaient là. Maman, on avait ça. À 25 francs, je prends son tuc. Maman, c'était le prix. Je vais parler. Il n'y avait pas besoin de tribaliser. Même pas d'ératiser. La CNI, on avait ça. C'est pas comme maintenant. Avec Pakako et Wunaboué. Woko Wunaboué. N'allez pas au Nozo Ninjadi. Vous vous êtes entêté. Oyanga Zogwanzala et Kubalade. Okake Makor Nisike. Avec Pakako Wunaboué. Woko dégagé.
Hey, Koro, c'est ça qu'on appelle comme Manga Kumba?
Toi aussi, mais il y avait déjà ça.
Il y avait quoi avant Richard Bonnat, un titre à retrouver sur la playlist de RFI. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans 8 milliards de voisins et de voisines. On parle de la grossophobie, une discrimination des personnes en surpoids. Oui, mais comment le prouver? On en cause avec nos invités Daria Marx, militante féministe et anti-grossophobie, autrice de l'essai 10 questions sur la grossophobie aux éditions Libertalia, et le sociologue Jean-François Amadieu, professeur à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Je le disais tout à l'heure, la France est un des rares pays où la discrimination sur le physique est inscrite dans le code du travail depuis 2001. Et pourtant, honnêtement, il y a beaucoup, vous qui travaillez sur le management, Jean-François Amadieu, il y a quand même pas mal d'études qui prouvent quand même que forcément l'apparence physique, et en l'occurrence le surpoids, joue dans le choix des recruteurs.
Évidemment. Écoutez, les deux premiers motifs de discrimination pour les demandeurs d'emploi, c'est l'âge, le fait d'être senior. Et comme vous le savez, on prend du poids en étant senior, inévitablement. Et puis, surtout, l'apparence physique. Bon, c'est un sujet majeur, tout le monde le sait très bien. Il se trouve que, malheureusement, on n'a pas beaucoup progressé sur ce sujet des discriminations à l'embauche. C'est le problème. Alors, on a une législation en France depuis 2001. Il faut quand même préciser qu'elle n'a jamais été créée pour la grossophobie.
Elle a été rajoutée.
C'est-à-dire qu'on ne pensait pas à ce sujet quand on a introduit apparence physique en 2001 dans la loi. Jamais on avait imaginé. On ne parlait pas de ces sujets dont on parle aujourd'hui à l'époque. Et puis, il se trouve que ça sert à ça. Mais la France est en effet un cas rarissime avec la Belgique en Europe. Au niveau européen, l'obésité, la taille, le poids et même l'apparence physique ne sont pas dans la législation, dans les textes européens, ni dans les textes internationaux. On a simplement, dans la jurisprudence européenne, rattaché l'obésité au handicap, en se disant, c'est une forme de handicap, donc on va faire comme ça. Et dans les autres pays, alors pays par pays, finalement, c'est rarissime, en effet, que ce soit pris en compte. Alors les Américains, pendant longtemps, il y avait un seul État américain, le Michigan, qui le prévoyait. Et juste la taille et le poids, pas toute l'apparence physique, juste taille et poids.
Ouais, pas la couleur
et maintenant, il y a à l'heure actuelle, si je ne me trompe pas, 5 États américains qui ont intégré la taille et le poids dans la législation antidiscrimination. Ce qui est déjà un progrès considérable, parce que pendant des années, il n'y avait rien du tout. Donc les Américains sont quand même, alors qu'ils sont hyper concernés, bien sûr, puisque aux États-Unis, comme vous savez, il y a 40% d'obèses, 70% de personnes en surpoids ou obèses. Donc bien sûr, ils sont très concernés, mais ils étaient plutôt en retard. Donc il y a un décalage dans tous les pays, mais du coup, bien sûr, entre la réalité des discriminations sur sujet que tout le monde connaît et qui est très bien documenté scientifiquement, et puis les législations, disons la prise de conscience politique aussi du problème.
Donc, il y a des chiffres, il y a des études, discrimination à l'embauche, mais comment on le prouve d'abord?
Nous, en tant que militants, militantes, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire entendre, à faire prouver, même s'il y a que la discrimination à l'apparence physique englobe les problématiques de grossophobie, c'est très difficile à prouver. D'abord, dans son ensemble, la discrimination à l'apparence physique est à l'apparence physique est très difficile à prouver. Et pour la grossophobie, on se rend compte qu'on est confronté à deux cas de figure. Soit l'argument de la grossophobie n'est pas retenu, et la jurisprudence ou le jugement va retenir plutôt le harcèlement, par exemple dans un cadre de harcèlement grossophobe au travail d'une employée qui se fait traiter de grosse truie ou des mots très durs. Ce n'est pas la grossophobie qui va être retenue, mais le harcèlement. Et la grossophobie ne va pas venir...
C'est pas un délit, quoi. Il n'y a pas la notion de délit de
ça.
Grossophobie.
Et ça ne va pas être une circonstance aggravante que le harcèlement soit caractérisé par la grossophobie. C'est ça que je veux dire. Ou alors, et c'est ce que vous évoquiez précédemment, on va dire, ah, c'est du harcèlement sur quelqu'un de malade ou d'handicapé, et ça, c'est peut-être punissable. Mmh. Et donc, on va retenir que la personne grosse est forcément une personne malade, et donc on la met dans la catégorie de la maladie ou du handicap. Et c'est deux solutions qui ne nous conviennent pas. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'on établisse qu'il y a vraiment des propos grossophobes et que ces propos grossophobes doivent être éliminés et punis. Mmh.
C'est un point très intéressant que Daria aborde là, qui est une question, alors je le dis tout de suite, elle est sensible. C'est pourquoi dans notre code pénal, on a introduit, pour quelles raisons, on a considéré que des insultes, des moqueries étaient admissibles, étaient plus graves sur certains sujets que sur d'autres.
Ouais.
Donc, et Daria connaît très bien le sujet, puisque c'est une militante
exemple,
féministe aussi.
Plus grave mais sur si le racisme, vous, si... ou le sexisme.
Exactement.
Que c'est ça.
Sur, quand c'est du racisme, la question aussi LGBT qui est concernée, là, on va considérer que c'est, ou religieuse, on va considérer que c'est une particulière gravité. Mmh. C'est plus pénalement davantage sanctionné que si c'est en effet de la grossophobie. Mais à un moment donné, dans la mesure où le droit de la discrimination, lui, ne fait pas cette différence, normalement, et le harcèlement discriminatoire non plus, tout est mis sur le même plan. On ne fait pas une différence particulière dans notre droit. Mais on le fait, en effet, dans le code pénal. Et quand on y réfléchit, alors évidemment, il y a des explications, c'est, bon, on peut toujours en chercher, mais quand même, ce n'est pas très défendable. Pourquoi ce serait moins important? Et c'est important ce que dit Daria, parce que
et
ça prouve quand même...
Et vous n'avez pas la réponse à cette question,
mais
vous,
hein, si on peut répondre à ça. Mais ça prouve qu'on n'a pas pris conscience de la gravité, finalement, de cette grossophobie, qu'elle est aussi importante qu'un autre sujet, qu'elle fait autant de mal aux gens, qu'elle va entraîner des problèmes de santé mentale, des tas de problèmes, etc. Mais ça montre que dans nos sociétés, on continue à trouver que c'est plus admissible.
Ouais, c'est ça.
Au fond, ce n'est pas très grave, on peut l'admettre davantage qu'autre chose. Et ça, c'est très contestable. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, au pénal, prévoir le plus dur pour les gens qui... l'expression du racisme. Mais pourquoi plus sur ce sujet que celui dont on parle? Et alors, si, on a la raison. Mais Daria pourra le confirmer.
Alors, rapidement, la raison que
tu
as observée en Afrique du Sud.
Elle le sait, mais je vais deux secondes. C'est simplement que vous n'avez pas la même antériorité des luttes, le même milieu associatif. On ne va pas comparer la lutte des femmes et la lutte contre le racisme dans le monde entier ou aux États-Unis avec ce qu'est la question de la grossophobie et des associations d'obèses en France.
Enfin, pourtant, vous le racontez dans votre livre, avant d'aller en Afrique du Sud, les premiers mouvements de lutte contre la grossophobie étaient associés au mouvement des droits civiques aux États-Unis dans les années 60. Donc, quand même.
Et moi, j'aimerais, s'il y a un message à passer, c'est pourquoi est-ce que les grosses, enfin, en tout cas de mon expérience militante, ont du mal à se saisir de leurs droits? C'est parce qu'on leur a tapé dessus dès la tendre enfance en leur disant qu'ils n'avaient pas le droit, que c'était de leur faute et qu'en fait, ils vont passer leur vie à essayer de sortir de leur condition de grosse plutôt qu'à lutter pour leurs droits.
Grossophobie intériorisée.
Ça fait partie de la grossophobie intériorisée. Alors, moi, je ne peux que regarder avec tendresse les gens qui passent leur vie à essayer de mincir parce que je comprends pourquoi ils le font, mais je leur dirais, intéressez-vous aussi à ce qui est possible de faire en étant gros. N'attendez pas d'être mince pour vivre et pour avoir des droits.
Mais vous savez, le paradoxe, c'est que Daria, comme d'autres d'ailleurs, réussissent à faire parler de la grossophobie. Très bien. Et comme vous l'expliquez, comme ça c'est fait aux États-Unis, mais pas parce que c'est juste de la grossophobie, parce que c'est lié à une problématique raciste ou féminine. C'est le combat féministe qui permet de faire avancer des sujets comme ceci, mais il y a plusieurs sujets de discrimination qui n'avancent que par ce détour. Vous voyez, si c'était pas une question qui impacte les femmes, si c'était, et en effet, par exemple, pour la grossophobie, ça impacte surtout les femmes, du coup, les femmes vont s'en saisir. Du coup, ce que je veux dire, c'est que c'est porté par un combat féministe, de même que ça peut être porté par les gens qui luttent contre le racisme. Ouais. Alors, c'est très bien, et c'est un vecteur qui peut être efficace, mais ça montre aussi qu'en soi, si c'était que la grossophobie, tout le monde s'en foutrait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est un peu aussi, alors il faut utiliser ce qui est utilisable pour que ça avance, mais ça montre qu'il y a encore du boulot.
Je pense que évidemment, vraiment que les gens mesurent très mal à quel point la grossophobie est fait partie prenante de tous les esprits, de tous les fonctionnements de société, de toutes les politiques publiques. Et vraiment, je pense qu'on en est qu'au tout début de se rendre compte de tout ce que ça impacte.
Je vous propose d'aller faire un petit tour et de voir comment le poids et le rapport au corps sont perçus, notamment en Afrique du Sud.
8 milliards de voisins. On est ensemble.
Good morning, bonjour.
Salut les voisins.
Salam alaikum.
Muchas violo.
Buenos dias.
A quoi va les voisins et les voisines?
Et nous sommes en ligne avec Claire Barjolais, c'est notre correspondante à Johannesburg. Bonjour Claire.
Bonjour.
Alors en Afrique du Sud, il y a une double perception hein, des corps, alors avec d'un côté les rondeurs hein, qui sont toujours valorisées, mais de l'autre l'émergence d'une injonction à la minceur, hein, c'est ça?
Oui, tout à fait. On retrouve cette dichotomie. Elle sépare, pour résumer assez schématiquement, les zones géographiques du pays et les générations. Alors, dans les zones rurales et dans les townships, les quartiers les plus défavorisés depuis l'apartheid, être bien en chair, c'est culturellement toujours valorisé. Cela représente à la fois un critère de beauté, surtout pour les femmes, mais aussi un marqueur de richesse et de statut social, car bien manger, ça signifie qu'on a les moyens pour le faire et donc qu'on a, entre guillemets, réussi dans la vie. Et cet imaginaire du surpoids comme signe de succès se retrouve très bien dans la représentation cliché des hommes politiques ou des hommes d'affaires qui auraient développé à côté de leur succès ce qu'on appelle en anglais un pot belly ou un umkaba en zoulou, un bidon devenu dans les esprits symbole apparent de leur réussite. Et selon les études scientifiques, il faut aussi rajouter que être un peu enrobé, c'est perçu ici finalement comme un signe de bonne santé, alors que la minceur était rattachée pendant très longtemps à l'épidémie de VIH qui a lourdement ravagé le pays, en particulier dans les années 2000. Et puis enfin, au sein des populations plus éduquées et plus urbaines, il y a cette tendance d'acceptation des corps, de lutte contre la grossophobie pour encourager les femmes à être bien dans leur peau et peu importe leur poids.
Oui, forcément. Et puis, il ne faut pas oublier, Claire, on en parlait tout à l'heure avec nos invités, et aussi tout un contexte historique, hein, forcément, qui entoure la façon dont est perçu le corps des populations noires et surtout des femmes, là encore. Hein.
Oui, vous l'avez évoqué tout à l'heure et c'est ce que décrit notamment la sociologue Sabrina Strings. Elle montre en fait comment racisme et grossophobie s'entremêlent et tout ça, ça remonte à la traite des Noirs et aux théories racistes de l'époque avec ce stéréotype où les maîtres blancs protestants sauraient davantage contrôler leurs excès. Et en Afrique du Sud, ben, ça trouve un écho très fort puisque tout le monde a en tête l'exemple de Sarah Bartman. C'était cette femme qui était surnommée la Vénus Hottentot. Et elle a été réduite en esclavage et exhibée en Europe au XIXe siècle. Et tout ça pour montrer ses formes et son postérieur jugé comme étant généreux. Et donc la critique du corps noir féminin bien en chair n'est donc vraiment pas anodine.
Oui, forcément. Mais c'est-à-dire, il paraît qu'on a vu ces dernières années en Afrique du Sud des contre-exemples qui montrent un changement de perspective, Claire.
Oui, prenons une personnalité publique comme Annelem Doda, elle anime la matinale d'une des radios de Johannesburg. Elle représente bien ce changement. Elle est connue pour ses formes généreuses et pour son discours très décomplexé autour de son corps. Mais ces dernières années, elle a connu une perte rapide de poids et elle a détaillé en fait sur les réseaux sociaux ses efforts, à savoir faire du sport de façon plus intensive, un changement alimentaire. Et donc il y a ce double mouvement parce qu'elle continue au cours de ses émissions à prôner l'acceptation de tous les corps et à dénoncer la grossophobie. Et on le voit aussi dans le corps d'une autre personnalité politique comme Julius Malema, c'est le leader de la gauche radicale ici. Il a aussi beaucoup changé en peu de temps et beaucoup de Sud-Africains l'ont félicité pour ses efforts. D'un autre côté, beaucoup sont aussi inquiétés de voir ses kilos disparaître. Donc en fait, on voit bien qu'il y a une transformation de l'imaginaire des classes moyennes sud-africaines autour du rapport au corps et elles seraient un peu plus réceptives au culte du corps plus d'altes aujourd'hui.
Pour terminer, tout cela montre en tout cas que les politiques de lutte contre l'obésité doivent être adaptées à toutes ces perceptions, c'est ça?
Oui, il faut trouver un juste milieu sur commençant à parler de la question de l'obésité sans se faire sentir honteuses les personnes concernées. Et il faut quand même rappeler qu'ici, le surpoids concerne 2/3 des femmes et 1/3 des hommes, pour redonner quelques chiffres. Mais c'est aussi avant tout ici une question d'inégalité très forte dans le pays, puisque dans les zones défavorisées, il n'y a pas un accès facilité à une alimentation équilibrée. équilibré avec beaucoup de boissons sucrées, la restauration rapide. Donc pour les plus défavorisés, avoir juste quelques rentes, ça permet juste de s'offrir un quota, c'est un grand pain rempli de charcuterie et de frites. Donc forcément, ça remplit bien l'estomac, mais c'est pas forcément équilibré. Donc toutes ces politiques publiques doivent aussi comprendre tous les enjeux qui concernent l'Afrique du Sud.
Ouais, forcément. Merci beaucoup pour vos éclairages, Claire Bargelès. Je rappelle que vous êtes notre correspondante à Johannesburg. Je vais faire réagir nos invités. Daria Marx, forcément le poids, marqueur social, signe de réussite ou pas, comme on a parlé de la malbouffe sociale. Vous, voilà, dans les fameuses 10 questions que vous posez sur la grossophobie, elle est là aussi. Hein.
Bien sûr, alors, je ne suis pas du tout spécialiste de ce qui se passe en Afrique, donc je vais parler de ce que je connais le mieux. C'est en France, il y a un véritable marqueur social. Les gros en France sont les plus pauvres, les plus défavorisés, ceux qui ont le moins accès et à l'emploi et à la nourriture de qualité. Il y a une vraie question autour d'une sécurité sociale alimentaire, je pense, qui est en train d'arriver en France sur comment est-ce qu'on assure à tout le monde de manger des choses nutritionnellement correctes, pas trop chères, et comment on évite de nourrir les gens qui ont pas accès à la nourriture de qualité avec le pire de ce que peut produire un agro-industriel, plein de sucre, plein de gras, etc. Parce qu'on parle beaucoup des responsabilités individuelles des gros, des grosses, mais je trouve qu'on évite beaucoup de parler de la responsabilité des agroalimentaires, de l'organisation de la santé publique. Enfin, vraiment, je pense que être gros aujourd'hui, en fait, la part de responsabilité, s'il y en a une, elle est infime. On est vraiment au centre de milliers de bulles qui se convergent vers nous. Mmh. Et dans ces bulles-là, il y a vraiment des facteurs très importants tels que, effectivement, la pauvreté, la représentation sociale, l'accès à l'alimentation de qualité, l'accès à l'emploi, l'accès à l'argent, la pauvreté. Enfin, c'est vraiment des choses importantes.
Le poids marqueur social, forcément, ça intéresse et ça travaille le sociologue que vous êtes, Jean-François Médieu, avant de prendre nos auditeurs aussi.
Oui, bien sûr, quand on travaille sur la grossophobie, mais également sur tous les sujets d'apparence, physique, vestimentaire, etc., on constate évidemment que ce sont des marqueurs sociaux et on a tendance à sous-estimer, dans tous les pays et en France en particulier aussi, le fait que les discriminations, par exemple, sur le marché du travail et dans la vie en général, dans notre vie, tous les préjugés, etc., sont liés à l'origine sociale ou au milieu social qui est le vôtre. Alors, on le sous-estime. Ça va changer, hein, je vous l'annonce, mais pour le moment c'est sous-estimé, alors que ces classements, si vous voulez, sociaux, comme le disait Daria, le fait qu'effectivement l'obésité va être concentrée dans les milieux populaires, et d'ailleurs de plus en plus, c'est une sorte de cercle vicieux. Mais évidemment, le jugement, quand vous allez chercher à être recruté, etc., le jugement des autres, c'est que, automatiquement,
on associe à l'origine, les origines sociales.
À votre milieu social, à votre origine sociale. Ouais. Or, sans s'en rendre compte, en fait, parce que les gens ne s'en rendent pas compte, mais du coup, ça va vous dévaloriser. Vous savez qu'en matière de racisme, beaucoup de travaux américains ont montré la même chose.
Oui.
C'est-à-dire que ce n'est pas juste le fait que vous soyez noir ou blanc. Mm. Ça compte, bien sûr. Mais ce n'est pas la seule raison de discrimination. C'est le fait que vous êtes en plus considéré, souvent par votre prénom aux États-Unis, noir ou blanc, vous allez être considéré comme étant d'un milieu populaire. Et en soi, on s'est aperçu que le fait d'être juste étiqueté comme appartenant à un milieu populaire ou d'origine modeste, vous apparaissez comme moins bon, moins compétent, moins potentiel.
Peine, hein,
c'est la double peine.
Oui, bien sûr,
et du coup, en matière de grossophobie, c'est la même chose qui va se passer. Donc c'est aussi ce qui se passe. Alors pourquoi je disais que pour le moment c'est mal pris en compte? C'est parce que les textes internationaux européens, les textes de l'OIT sont tels que normalement l'origine sociale devrait être dans la loi sur la discrimination en France. On ne le fait pas. Le Conseil de l'Europe et l'OIT nous l'a réclamé, mais on ne le fait pas. Voilà.
On a un appel au 33 7 64 45 51 41 et là on part du côté du Sénégal.
8 milliards de voisins et de voisines.
Et aujourd'hui, on dit quoi ?
Et c'est Dambarou qui nous appelle de Kolda, au Sénégal. Bonjour Dambarou.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, vous avez 25 ans. Bon, vous êtes un petit peu en surpoids, hein, c'est ça, Dambarou ?
Et oui, c'est ça, effectivement.
Voilà, et je crois savoir quand vous le faites remarquer, pas de façon toujours très sympa, notamment quand vous voulez faire du foot, racontez-nous.
Oui, c'est justement au terrain, mes amis n'aiment presque pas que je sois dans leurs équipes.
Ils ne veulent pas jouer avec vous, c'est ça?
Oui, c'est à cause de mon poids. Et à chaque fois, vraiment pour cela, j'avais envie de m'abandonner le football. Quoi.
Vous avez envie d'abandonner le football?
Oui, parce que même à la bibliothèque, les gens parlent souvent de rugby, de faire de rugby et c'est le football. Mais ouais. moi, c'est le football qui m'intéresse, quoi, c'est pas le rugby.
Bon, bah, faut pas laisser tomber, hein.
Ouais, en tout cas, bon, je poursuis mes rêves, quoi, pour être un footballeur ou bien pour jouer au football, quoi.
Ouais, bah, faut continuer à croire à ses rêves et faut s'accrocher à ses rêves. Merci pour votre témoignage, Ambarou. Désolée, on peut pas rester plus longtemps avec vous parce que la liaison est vraiment pas très, très bonne. Il y a quand même un gros sujet derrière Marx, il faut qu'on en parle quand même, que vous évoquez dans votre livre. C'est pour vous le système médical.
Ça veut dire qu'il y a une grossophobie médicale des soignants, des soignantes qui sont grossophobes, parce que c'est pas parce qu'on fait des études que ça nous lave de la grossophobie qu'on a eue toute notre vie. Donc ils sont par défaut un peu grossophobes comme tout le monde. Et ils sont aussi grossophobes parce que rien n'est fait pour aider.
Mais vous l'avez vécu concrètement? Comment?
Ah bah moi je le vis quotidiennement, pas quotidiennement, je suis pas chez le médecin tous les jours.
Mais c'est ça.
Je le vis bien sûr très souvent. Enfin moi je raconte souvent cette anecdote d'aller chez un dentiste en urgence que j'ai mal aux dents. Il doit m'arracher une dent, il me pique dans la gencive, je lui dis j'ai encore mal, il finit par marcher non dans des circonstances que je ne vais pas décrire pour préserver les oreilles de nos auditrices, nos auditeurs, mais j'ai très très mal et à la fin je lui dis mais enfin quand même c'est pas possible, j'ai jamais eu mal comme ça avec des piqûres d'anesthésion. Il me dit oui mais l'anesthésion ça prend pas sur les gencives grasses.
Ah oui.
Ce qui est un non-sens médical déjà total parce que l'anesthésion prend très bien sur les gencives et la gencive n'est pas grasse, enfin vraiment ça n'a aucun sens. Mais c'est vous dire à quel point il y a quand même un petit sadisme quand même chez les soignants.
Alors,
parfois.
Lui peut-être en particulier.
Alors ça c'est
mais
un individu,
en fait, vous
mais moi je parle aussi de, oui. Nous on a des gens dans notre association Agra Politique qui ne peuvent pas aujourd'hui, qui ont besoin d'être diagnostiqués de choses qui sont peut-être graves ou pas, on ne sait pas, qui ont besoin de faire des scanners, qui ont besoin de faire des IRM, qui ont besoin de faire
adapté.
Des radiographies,
en fait,
qui ne peuvent
adapté.
Pas le faire parce qu'on refuse dans les cabinets en ville, parce qu'on leur dit ah ben non, notre assurance ne supporte pas les gens au-dessus de 120 kilos, donc on ne peut pas vous prendre sur nos tables, etc. etc. Ou alors dans les CHU, dans les grands hôpitaux, on n'a pas d'IRM à champ ouvert assez grand pour vous prendre, etc. Alors avant, on envoyait les gens à la clinique vétérinaire. Non, ce n'est pas une légende. Et maintenant, même les cliniques vétérinaires ont arrêté de prendre les gros. Donc,
alors j'ai vu ces chiffres qu'il y avait 30% de personnes obèses en France qui n'allaient plus se faire soigner.
Oui, c'est une enquête très sérieuse qui dit ça, parce que vraiment, ça traumatise tellement. Quand on est en situation de détresse, quand on est malade, quand on a besoin d'aide médicale, qu'on arrive dans un service d'urgence ou chez le médecin et qu'on se fait moquer, qu'on prend pas notre douleur en compte ou qu'on nous dit bah de toute façon moi souvent ce qu'on m'a dit par exemple dans le cas de d'échographie pelvienne, c'est-à-dire du système reproducteur sexuel et de reproducteur, on m'a dit on voit rien là-dedans, c'est trop gras, je peux pas vous dire, enfin c'est terrible quoi. Quand on est en souffrance, quand on attend une réponse et qu'on se fait moquer ou qu'on vous dit ça, et ben on rentre chez soi et on se dit bah je vais crever chez moi, c'est pas grave, parce que c'est absolument décourageant et méprisant. Et vraiment c'est une organisation de la santé publique qui fait que quand on veut se faire opérer d'une chirurgie de l'obésité, par exemple, là, par miracle, on rentre sur les blocs, on vous trouve des chaises où vos fesses rentrent, les lits médicaux montent jusqu'à 200 kilos, enfin, ça on peut. Mais par contre, pour soigner les gros qui peuvent se casser la jambe, avoir un cancer, avoir des maladies comme les minces, en fait, là, il n'y a plus personne.
Il y a une transphobie médicale, oui. Jean-François Mathieu.
Oui, tout à fait. En effet, c'est très important d'en parler parce que c'est un sujet qui a été souvent traité, qui est très important aux yeux des associations d'obèses en
France. On en parle
France.
De plus en plus, hein, parce que c'est quand même un gros sujet tabou.
Oui, alors mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une partie du corps médical est bien sûr a tout à fait pris conscience du fait qu'il faut raisonner autrement. Par exemple, moi j'ai travaillé sur les plans nationaux de prévention de l'obésité et vous avez des médecins qui en étaient responsables et qui ont bien sûr qui sont tout à fait conscient du fait que, par exemple, il faut lutter contre tous les stéréotypes, les discriminations, la stigmatisation des personnes en surpoids pour éviter, justement, si on veut, limiter les phénomènes d'obésité dans nos pays. Mais donc, c'est le problème qu'on a, c'est que, comme Daria le disait, toute une partie, bien sûr, malheureusement, du corps médical est restée sur une logique à la fois de stigmatisation, une logique un peu, je dirais, traditionnelle ou ancienne, consiste... Et beaucoup de gens pensent que au fond, pour lutter contre l'obésité, qui est quand même une pandémie, eh ben, il faudrait finalement stigmatiser et au fond, ce qu'on fait aujourd'hui, ensemble ici, serait considéré comme une apologie au fond de la prise de poids. Ce serait irresponsable parce que c'est un problème de santé, etc. Et en fait, c'est parce que ce sont des gens qui n'ont pas compris, alors que beaucoup de médecins qui, justement, sont tout à fait conscients des risques pour les personnes, des problèmes de santé éventuels qui pourraient apparaître, mais considèrent aussi que ce n'est pas en stigmatisant les gens.
Ça, c'est plus que sûr. Allez, on a un dernier appel au 33 7 64 45 51 41. Et là, on va du côté de la RDC.
8 milliards de voisins.
Pour séparer.
C'est une émission pour tous les voisins et tous les voisines.
8 milliards de voisins, voisines, construisant la vie ensemble.
Et c'est Thérèse qui nous appelle de Kisangani. Bonjour Thérèse.
Bonjour, bonjour.
Ah, merci d'être avec nous Thérèse. Alors je crois savoir que vous avez pris pas mal de poids, hein. Vous avez pris beaucoup de poids à cause de vos grossesses, hein, c'est ça?
Oui, moi depuis 2021, ouais. J'ai pris du poids. Donc le poids normal que j'avais, c'était 58 kilos. Mm-hmm. Alors après juste mon accouchement, je suis sortie de 58 à 93 kilos. Vous voyez les...
83 kilos, hein, c'est ça?
Oui, 83 kilos.
Et du coup, comment vous le vivez, vous? Parce que je crois savoir que voilà, il y a beaucoup de moqueries, notamment de la part même des gens de votre famille.
Par ma famille, par mon entourage, j'étais frustrée, j'étais choquée par ces changements. On m'avait donné un surnom, là, Apoutchou, qui signifie quelqu'un qui est gras, un obèse, en fait.
Ouais, c'est ça,
donc,
Apoutchou.
On m'est dérangé jusqu'à ce que je pousse ses mains comprendre et que ce sont des injures, je ne pouvais plus rien faire.
Ouais.
Ça m'a dérangé et j'ai forcé à faire des régimes.
Les fameux régimes.
Et ce n'était pas facile.
Ouais.
Maintenant là, j'ai 78 kilos, c'est déjà quelque chose de bien et cette taille, les gens commencent maintenant à apprécier et moi-même, je m'apprécie parce qu'en tout cas, c'était foutu. Avec la taille que j'avais.
Ouais, bon, bah voilà. Donc, du coup, maintenant, vous vous acceptez, puis les remarques des autres, bah, tant pis pour eux, hein, c'est ça. Merci beaucoup pour votre témoignage, hein, Thérèse. Belle journée du côté de Kisangani. Bah oui, ça peut aussi venir de la famille aussi. On parlait des médecins, on parlait des embaucheurs.
C'est terrible ce témoignage, parce que vraiment, il n'y avait pas pire que de se faire humilier par ses proches, par sa famille. Mmh. Effectivement, c'est le lot de beaucoup de gros et de grosses. Et quand on dit gros et grosses, il faut penser aux enfants. Gros et grosse aussi, parce que alors on n'est pas d'accord sur le vocabulaire. Vous dites que l'obésité est une pandémie. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de gros et de grosses, on va dire.
Vous parlez d'une panique morale de
oui,
face
moi,
à l'obésité.
Oui, moi j'aime pas les mots. En fait, je sais que je nie pas du tout la réalité, des chiffres et le fait que l'obésité, qui est un mot médical, peut être facteur de risque sur plein de choses. Je suis pas du tout là pour nier la science. Je chipote sur les mots. Je trouve que pandémie, c'est vraiment de la panique morale et c'est pas des mots que j'aime employer. Mais en tout cas, vraiment, j'aimerais qu'on ait une pensée pour les enfants gros et grosses qui subissent un harcèlement à l'école qui est vraiment terrible. Une pensée pour Dylan qui était un enfant gros qui a été moqué, harcelé, qui a fini par s'immoler par le feu, qui a survécu et qui a fini par se suicider tellement il ne se remettait pas du harcèlement qu'il a subi. Ça se passe en France aujourd'hui. C'est terrible.
Ouais. Oui, ce serait important.
Jean-François Madieu.
En effet, vous savez que dans les études publiques en France, sur les moqueries, et les railleries, les mises à l'écart, et également les études sur le harcèlement, on sait que c'est le plus dur, c'est à l'école, au collège, au lycée.
Oui.
C'est terrible. Et c'est, vous savez que taille et poids, c'est le sujet numéro un.
Taille
moquerie, mise à l'écart en France en général. Ouais. Et bien sûr, surtout dans les établissements scolaires. Et toutes les études sur le harcèlement, les suicides à l'école, en effet, des jeunes, on sait que c'est lié à ça. Hein. Donc c'est un milieu extrêmement dur et malheureusement, c'est là où on a un vrai problème. Et d'ailleurs, ça fait déjà quelques années. Vous vous souvenez que même le ministère de l'Éducation nationale avait essayé de faire des spots justement pour alerter en utilisant justement ce personnage du garçon un peu rond qui va être moqué, etc. Donc c'est pas un sujet anecdotique.
Faire reconnaître le délit. Ouais. De grossophobie.
Et
c'est le message
vraiment,
à faire passer.
En parler d'abord. Enfin, on parle de plein d'autres discriminations. Parlons de celle-ci aussi. Osons en parler. Je pense que c'est très important juste de dire que ça existe. Et c'est en commençant à dire partout que ça existe qu'on va lui donner une existence
et
pour pouvoir
se
battre.
Et ça bouge pas un peu plus sur les réseaux sociaux, les influenceurs ou pas, où on est toujours dans les mêmes types de représentations, les normes sociales.
Vous allez croire que je vois le verre toujours à moitié plein.
Mais non.
À moitié vide, pardon. Mais moi, je me méfie un peu des mouvements sur les réseaux sociaux qui ne débouchent à rien de concret. En fait, moi, ce que je veux, c'est du concret. Ce que je veux, c'est vraiment du soin pour tout le monde. C'est une société qui soit plus acceptante, mais dans la taille des places dans le bus, la taille des places dans le train, enfin, des choses vraiment très, très concrètes. Après, qu'il y ait des hashtags super sur les réseaux sociaux, bon, je suis la première à qui ça fait plaisir, mais vraiment, moi, j'attends du concret maintenant.
Et quelque part, c'est de sortir aussi toujours et encore de ces fameuses logiques de performance, en fait, aussi, que ce soit dans le travail, que ce soit dans, voilà, qui rentrent dans certaines cases, des cases de performance, on en est encore là.
Oui, alors c'est vrai que notamment c'est très important quand on parle de grossophobie, parce que vous savez que les employeurs de plus en plus, on vit dans un monde où quand vous parlez de performance, c'est en particulier aussi la bonne santé.
Ouais.
La garantie que la personne sera toujours en parfaite bonne santé, extrêmement performante, dynamique, sportive, etc. Et c'est vrai que toutes ces exigences, elles sont accrues et elles posent évidemment ce problème. Voilà. Ouais. Donc ça c'est certain. Puisque vous indiquez qu'il y a... Oui, il y a des choses qui changent sur les réseaux sociaux et je suis d'accord avec vous. Tous les changements qu'on observe sont très insuffisants par rapport, bien entendu, à ce qu'il faut faire. Donc c'est vrai qu'on est très très loin du compte. C'est absolument certain aujourd'hui. Alors il y a des signes qui sont un peu intéressants dans les changements actuels, notamment ces dernières semaines encore. Il y a à nouveau un frémissement sur du côté des annonceurs, de la publicité, parce qu'il y a beaucoup à faire, un retard important dans l'univers de audiovisuel. La publicité.
Bien sûr, présentation, voilà, ça c'est sûr. Et diversité,
Les Fashion Week, etc. Donc, dans beaucoup de domaines, il y a un retard qui reste très important dans la présence de personnes en surpoids ou obèses à la télévision, dans les images en général.
Ouais,
voilà.
Ouais,
et là, il y a beaucoup de chemin à faire.
Le chemin est encore long, mais en tout cas, c'était bien de libérer aussi la parole. Merci à vous deux d'être venus. Daria Marx, je rappelle votre essai 10 questions sur la grossophobie aux éditions Libertalia. 10 questions, je pense qu'à mon avis, il y en avait bien d'autres encore, hein, mais c'était l'exercice imposé. 10 questions.
Merci.
Et merci à Jean-François Madieu, sociologue et professeur à l'Université Paris-1-Panthéon-Sorbonne. Allez, on se quitte avec Joanne Papa Constantino. Laisse-moi le chat sur RFI.
J'ai pris des pincettes avec toi, mais ça marchait pas. J'ai pris des décisions pour moi, mais j'aimais pas ça. Au bout d'un combat pris dans un noir, tu m'as dit ça. Au bout d'un combat pris dans un noir, tu m'as dit ça. Ne reviens plus jamais vers moi ou je te pète un bras. N'écris plus jamais mon prénom dans ton agenda.
Plus jamais, plus jamais.
Ne m'appelle plus jamais pour me demander quoi que ce soit. Tu peux garder tes mimosas, mais laisse-moi le chat. Mais laisse-moi le chat, mais laisse-moi le chat. Mais laisse-moi le chat, mais laisse-moi le chat.
Elle a posé des règles claires, bien mon amour. On pensait que son lacet suffirait, mais non. Les efforts ont été comptabilisés, gravés dans des têtes qui veulent pas effacer. On s'est mis dans un bouillon, réalité en tension. Ça a pris des proportions, faudrait jeter l'addition.
Jamais vers moi ou je te pète un bras. N'écris plus jamais mon prénom dans ton agenda.
Plus jamais, plus jamais.
Ne m'appelle plus jamais pour me demander quoi que ce soit. Tu peux garder tes mimosas, mais laisse-moi le chat. 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 C'est limite, fais attention. En accordéon, je connais pas la sensation, refoulé par Cupidon. J'ai pris des pincettes avec toi, mais ça marchait pas.
Plus jamais, plus jamais.
J'ai pris des décisions pour moi, mais j'aimais pas ça. Au bout d'un combat pris dans un bras, tu m'as dit ça. Au bout d'un combat pris dans un bras, tu m'as dit ça. Ne reviens plus jamais vers moi ou je te pète un bras. N'écris plus jamais mon prénom dans ton agenda.
Plus jamais, plus jamais.
Ne m'appelle plus jamais pour me demander quoi que ce soit. Tu peux garder tes mimosas, mais laisse-moi le chat. Mais laisse-moi le chat. Mais laisse-moi le chat. Mais laisse-moi le chat. Mais laisse-moi le chat.
Bye.
milliards de voisins et de voisines, c'est fini. Merci à toute l'équipe, Romain Dubrac, Juliette Brault, Delphine Cachin et Tom Malky. Lundi à la même heure, vous retrouverez Emmanuel Bastide au programme « Comment s'aime-t-on en ville ?» Et oui, souvent on parle des villes de grande solitude et d'anonymat, mais ce sont aussi des lieux de rencontre entre les bistrots et autres boîtes de nuit. N'hésitez pas à nous raconter vos histoires d'amour en ville ou même vos ruptures. On attend vos témoignages au 33 7 64 45 51 41. Nous, on se retrouve vendredi prochain. D'ici là, beau week-end à l'écoute de RFI.